Carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Jean-Jacques Henner, le dernier peintre romantique, membre de l'Académie des Beaux-Arts, fait l'objet d'une grande rétrospective à Paris. Nous sommes au Musée de la vie romantique et le conservateur, M. Daniel Marchessault, s'est fait notre guide pour nous présenter quelques-unes des plus belles œuvres de cet artiste injustement évincé par les impressionnistes. Voici la visite de cette exposition. Elle sera suivie d'un bref entretien avec le conservateur pour mieux connaître encore Jean-Jacques Henner. Nous sommes ici devant la femme couchée, dite la femme au divan noir en 1869. Quel commentaire feriez-vous sur ce tableau, monsieur le conservateur ?
C'est une toile qui vient du musée de Mulhouse. Elle est très très influencée évidemment par les peintres italiens. On pense naturellement à Titien. C'est un tableau extraordinairement voluptueux. Mais nous sommes à la même époque, les grands nus de Courbet. Donc c'est intéressant, c'est de voir au fond comment l'esprit assez voluptueux, sensuel de Henner se démarque du naturalisme peut-être encore plus expressif de celui de Courbet. C'est une pose qu'il va naturellement se nu allonger sur ce divan. On va la retrouver dans beaucoup de ses tableaux. Et il y a cette élongation des corps qui reprend un petit peu le maniérisme italien. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a chez Henner deux choses. Il y a deux mains. Il y a la main du portraitiste et il y a la main du peintre de l'éternel féminin. Dans l'éternel féminin, il s'agit toujours de la volupté des corps et en aucun cas de leur expression. Alors qu'à l'inverse, dans le cas des portraits, les corps sont un petit peu laissés de côté, ou les costumes, ou les robes, etc. Mais en revanche, les têtes sont très expressives. Ce n'est pas le cas de Courbet, qui évidemment traitera les deux de la même façon. Et vous voyez bien qu'ici, il y a une espèce de sublimation du corps féminin, à la fois dans ses tons nacrés, dans ses volumes extraordinairement sensuels, et puis ses fameuses chevelures enflammé.
Mais en effet, le portrait est d'autant moins important dans certains de ses nus qu'on les voit de dos.
Oui, on va en voir d'autres tout à l'heure là-bas. L'Alsace à la tente est une toile que l'on a commandée à Henner pour Gambetta. Et cette toile est assez petite. Et pourtant, elle a été connue dans la France entière, la reproduction. Et cette toile est devenue le symbole de l'unité et de l'indépendance et du désir d'indépendance et de liberté comme un cri de l'Alsace. Et qui est ici représenté par, évidemment...
Décrivez-la un tout petit peu pour que nos auditeurs puissent l'apprécier.
C'est au fond une paysanne alsacienne revêtue du costume traditionnel et de la coiffe avec la cocarde qui montre bien la pérennité de l'identité de l'Alsace à cette époque.
Et en plus, elle a un côté volontaire. Elle croise les mains devant elle, mais on a l'impression d'une femme volontaire.
Oui.
Énergique. Hein. Elle ne se laisse pas abattre.
Elle tient tête.
Elle voilà. Tient tête, exactement.
Et elle attend la libération. L'Alsace, elle attend la libération avec détermination, la libération du joug ennemi.
Dans cette salle des portraits de Jean-Jacques Henner, vous souhaitez nous parler du portrait de Madame Gentot.
Oui, Madame Gentot était évidemment une grande admiratrice d'Henner. Ce qui est intéressant, c'est que la même année, son portrait est exécuté par Henner et par Degas. Elle donnera son portrait par Henner à la ville de Paris, au musée du Petit Palais, et le tableau de Degas sera légué au Louvre. Mais nous sommes là en 1875. C'est dire que le renom d'Henner à l'époque était largement aussi important que celui de Degas. Vous remarquez que pour le traitement du visage, il y a effectivement cette expression d'une certaine réussite discrète, de bon ton, avec ce manteau, ces gants, ce manteau de velours, ce col et ses manches merveilleusement peintes, avec tout de même peu d'ostentation. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que Degas montrera le même modèle également avec peu d'ostentation, mais le traitement est évidemment très différent. Mais c'est surtout le Christ donateur, qui est donc un Christ mort, allongé sur son linceul, qui vient du musée Jean-Jacques Henner, dont j'aimerais parler une seconde, parce que il offre une iconographie tout à fait particulière, c'est-à-dire que la tête du Christ mort regarde le spectateur. Vous avez ce corps qui est allongé dans toute sa nudité extraordinairement tragique.
Terrifiant presque.
Terrifiante. On sait que, évidemment, Henner, comme d'autres peintres, a étudié l'anatomie, a été très sensible à ses études de nu. Et effectivement, cette iconographie-là est très particulière. C'est cette tête avec cette barbe et ce regard, ces yeux creux qui fixent le spectateur avec une notion de désespoir et également de charité qui répond aux deux donateurs, les deux figures de donateurs qui se trouvent à la gauche du Christ.
Et puis cette touche de rouge sur ses cheveux et sa barbe,
oui,
imagine que c'est le sang qui a fini par les... On ne voit jamais cela.
On ne voit jamais cela. Il y a, si vous voulez, les belles rousses ici sont transformées en une image très douloureuse, violente et morbide de la mort, avec une très grande économie de moyens. Vous remarquez que tout ça est, sur le plan du pinceau, assez vite travaillé, et sans grand effet. Oui. Cette retenue, cette
façon,
pudeur.
Oui. Et la manière chromatique aussi. Oui. Au fond, il y a du blanc, du noir, il y a pas, sauf cette tache rouge. Mais sinon, le reste, oui, c'est simple. C'est...
Oui.
Et pourtant, ça donne une impression très forte, tragique.
Tragique.
Et c'est un Christ sans la croix, sans... C'est vraiment le corps tout seul.
Tout seul. Oui. Henner a une très grande économie de moyens, et c'est en cela qu'il en est que plus émouvant. Chaste Suzanne, c'est évidemment un tableau de...
Dingue aussi, non ?
Tout à fait de jeunesse, de 64. Donc il y a une grande influence, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cette espèce de technique un peu porcelainée, avec une iconographie quand même reprise de l'antique, extrêmement peu de couleurs. Nous sommes dans des noirs, des bruns, et essentiellement des blancs. Alors, l'art des blancs, chez Henner, est extraordinaire, puisque au fond, vous avez toutes les variations qui expriment la sensualité des corps. Dans le cas de la liseuse, en plus, elle évoque évidemment tous ces modèles que Henner pouvait rencontrer à Pigalle, puisque son atelier était Place Pigalle. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'immeuble où il était, qui existe toujours, au 11 Place Pigalle, se trouvaient Puvis de Chavannes et plus tard Boldini. Et il y avait donc ce marché aux modèles qui se tenait tous les samedis. Il y avait des modèles masculins et des modèles féminins. Et évidemment, tout le monde venait là pour louer des modèles pour la journée.
Un mot de la salle où nous nous trouvons, qui est tout de même une salle extraordinaire. Donc, elle permet d'abord d'exposer de très grands tableaux d'Henner, immenses. Et puis, elle dispose d'une verrière magnifique.
Alors, le musée de la vie romantique présente deux ateliers d'artistes. Lorsque Harry Scheffer s'est installé ici en 1830, il a fait construire ces deux ateliers, et ces deux ateliers ont été construits en 3 mois. C'est intéressant de savoir que nous avons mis 5 mois pour ravaler l'extérieur d'un des ateliers.
Et 3 mois pour le construire.
Et 3 mois pour en construire deux. Oui, ce sont deux ateliers donc évidemment orientés au nord, et qui bénéficie d'une très grande hauteur sous plafond. Je crois que nous avons 7,50 m, ce qui permet de montrer en effet de très très grands tableaux. L'atelier où nous sommes, Scheffer l'avait destiné d'abord pour abriter les travaux de son frère Henri et également ses assistants. Nous avons, il y a quelques années, refait entièrement, évidemment, l'installation de cet atelier qui n'était pas du tout comme cela, mais qui permet aujourd'hui de donner une idée de ce qu'étaient les ateliers du 19e siècle.
Il y a dans cette grande salle d'immenses tableaux, mais il y en a aussi des tout petits au-dessus d'une magnifique cheminée de marbre et de porphyre, je crois. Quel est ce tout petit tableau intitulé « Femme nue couchée sous une fourrure » ?
Alors, en fait, c'est l'une des variations très nombreuses de ces nus féminins que Henner aimait traiter en monumental, mais vous remarquez que cette esquisse est beaucoup plus intimiste et fait probablement référence à une scène plus intime. Mais c'est vrai que la volupté, à l'échelle d'un tout petit tableau, c'est un tableau qui a simplement une vingtaine de centimètres de haut et ou de large. Et il y a là, dans la pose, dans l'éclairage, évidemment une volupté peut-être moins connue chez Henner. Ça aussi, c'est très beau. Mais on voit là, bon, sur le thème des Andromèdes, c'est pareil, là, la version définitive d'Andromède a disparu, mais vous avez là un certain nombre d'études. Alors, mais ça, ces deux-là font peut-être partie. La Madeleine
aussi,
est magnifique.
Hein, la Madeleine,
voilà.
Super.
Alors, ce que la maison de Victor Hugo a été donnée par Paul Meurice à la ville de Paris en 1903, il a commandé à Henner, qui était à la fin de sa vie, il allait mourir 2 ans plus tard, il a commandé un certain nombre de tableaux, dont un tableau à Henner qui s'appelait Sarah la Baigneuse. Sarah la Baigneuse était un hommage de Henner à Victor Hugo, et le poème des Orientales est absolument magnifique et bouleversant. Sarah, belle d'indolence, se balance dans un hamac au-dessus du bassin d'une fontaine toute pleine d'eau, puisée à l'hélissus. Et la frêle escarpolette se reflète dans le transparent miroir avec la baigneuse blanche qui se penche pour se voir. Et effectivement, en pleine maturité, en grande maturité, Henner a bien rendu, je crois, la volupté du poème avec ce corps merveilleusement lumineux sur ce hamac et l'ombre du pied qui se reflète dans le miroir d'eau.
Oui, ça valait la peine de s'arrêter devant Victor Hugo, qui fut lui-même académicien. Pourquoi qualifie-t-on Henner de dernier des romantiques ?
Henner est le dernier des romantiques dans la mesure où il a été formé par des maîtres de l'école romantique et que, incontestablement, ce jeune homme arrivant d'un milieu modeste en Alsace est arrivé à Paris à l'école des Beaux-Arts et a été fasciné par l'école romantique qui était le grand modèle de l'époque. Et il assiste de toute façon aux 2 grands hommages qui sont donnés pendant sa formation à Ingres et à Delacroix. Et incontestablement, si vous voulez, cet enflammement des passions, qui était le propre du romantisme, l'a considérablement marqué.
Donc il a fait l'école des beaux-arts et après, je crois qu'il a été Grand Prix de Rome.
Grand Prix de Rome. Il a mis du temps. Mis du temps et il est devenu Grand Prix de Rome. Il a passé 5 ans à Rome. C'est assez étonnant de voir cet homme qui est habitué à la lumière alsacienne et à la lumière du Nord, qui a été à Bâle, à pied de son village natal, pour admirer Holbein, qui est donc vraiment quelqu'un de formé à la lumière du Nord, passé 5 ans en Italie, visiter d'ailleurs naturellement toute l'Italie, comme ils le faisaient tous, et y avoir trouvé là les canons classiques, mais d'avoir été beaucoup moins sensible que d'autres, et on pense naturellement aux élèves de Corot, à la lumière italienne. Et nous le voyons bien ici dans l'exposition, où c'est quelqu'un qui reste absolument fidèle à ses racines sur le plan chromatique. Quelqu'un qui a évidemment été très, très influencé par le Corrège, par le sfumato italien de la Renaissance, mais sur le plan chromatique, il est tout à fait fidèle à ses origines.
Comment avez-vous rassemblé les tableaux? Il y en a une centaine d'exposés. C'est donc une très grande exposition à ce musée de la vie romantique. Comment avez-vous collectionné ces tableaux de Henner?
Il y a eu 2 axes principaux. Le premier a été évidemment de travailler avec Rodolphe Rapetti, qui est le directeur du musée national Jean-Jacques Henner. Mon ami Rodolphe a évidemment beaucoup travaillé sur l'œuvre d'Henner, et le musée va ouvrir en 2009. Et il y a un fonds considérable. Nous avons donc ensemble sélectionné près de 70 ou 75% de l'exposition chez lui. Cette exposition a également permis de mettre en lumière les collections du musée du Petit Palais. Le musée du Petit Palais, qui est un musée de la ville de Paris, comme le musée de la vie romantique, a été le premier à rendre hommage à Henner dès l'année de sa mort, en 1905. Il y a eu une salle Jean-Jacques Henner qui a été ouverte dès ce moment-là. Le musée du Petit Palais venait d'ouvrir à l'occasion de l'exposition internationale de 1900, l'exposition universelle. Et ce n'est qu'en 1923 que le musée national Jean-Jacques Henner a été créé. Donc, si vous voulez, le fond de la ville de Paris est également important. Nous avons montré 10 d'œuvres. Et puis, naturellement, nous avons également demandé au musée d'Orsay, à l'école des Beaux-Arts, au musée de Colmar, au musée de Mulhouse, au musée d'Amiens, un certain nombre de toiles complémentaires.
Parce qu'il y a des musées en province aussi qui lui sont
bien
dédiés.
Sûr,
oui.
Bien sûr, qui
enfin, sont en Alsace,
en
évidemment.
En Alsace, qui est... Et si vous voulez, cette exposition, qui n'a évidemment pas l'envergure d'une exposition du Grand Palais, donne, je crois, un panorama extraordinairement représentatif et fidèle des différents genres et des différentes périodes que Jean-Jacques Henner a pu, au cours desquelles il a évolué.
Quels sont les thèmes d'inspiration de Jean-Jacques Henner et selon les périodes, quels sont les genres dans lesquels il a excellé?
Jean-Jacques Henner, évidemment, dans la mémoire collective, c'est d'abord le peintre de l'éternel féminin et en particulier de ce qu'on appelle les belles rousses. En effet, c'est le chantre des beautés rousses. Il a aussi été un remarquable portraitiste et, cela se sait moins, un très très bon paysagiste. Il n'a pas montré ses paysages de son vivant, c'est pourtant quelqu'un qui avait à titre personnel une véritable curiosité pour le paysage, non seulement pendant sa première période, pendant qu'il était à la Villa Médicis, où alors là, l'exposition montre bien, effectivement, un certain nombre de petites vedoutées qu'il a fait sur le motif, ou d'autres qu'il a agrandies à l'atelier, mais plus tard, certains très beaux paysages d'Alsace. Il est surtout le peintre de l'Alsace meurtrie, l'Alsace...
Par la guerre de 1870.
Voilà, l'Alsace sous domination allemande. Et le peintre de l'Alsace ayant soif de liberté. Il y a deux grands artistes alsaciens parmi d'autres. C'est Henner en peinture et Bartholdi en sculpture. Bartholdi, la liberté que la statue de la liberté, mais surtout le lion de Belfort. Donc, et puis alors il y a un autre aspect de, enfin, un autre aspect très important de l'art de Jean-Jacques Henner, c'est la peinture religieuse. Et nous présentons là deux très importants et très beaux tableaux de Christ mort, qui sont évidemment influencés par Holbein, mais qui sont d'une puissance expressive qui va au-delà des canons sulpiciens de la peinture religieuse du temps.
Aujourd'hui, c'est un artiste que l'on a un petit peu tendance à oublier. Pourquoi est-il évincé par les impressionnistes, à votre avis ?
Alors, les 50 dernières années ont été un peu cruelles pour Henner, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons fait cette exposition, en précisant bien qu'il était face à l'impressionnisme. C'est un artiste qui est évidemment le contemporain des impressionnistes, qui était l'ami de Degas, qui a bien connu Renoir, qui a bien connu Manet, et évidemment, l'histoire du goût, l'évolution du goût, a fait qu'il a été un petit peu oublié. Je crois qu'aujourd'hui, justement, on se rend compte qu'il y a un nouveau regard, il est tout sauf un académique, et il est tout sauf un artiste pompier, c'est quelqu'un qui a une singularité expressive, probablement dû à ses origines à la fois rurales et intellectuelles, puisqu'il a vécu, il a passé 5 ans à Rome. Mais c'est vrai que les canons esthétiques, l'art du portrait, tout cela a beaucoup évolué au fil du temps. Il est temps, si j'ose dire, 100 ans après sa mort, qu'il y ait un coup d'éclairage sur sa peinture.
Est-ce que justement il jouit d'une grande cote à l'étranger, par exemple, le trouve-t-on dans les grands musées new-yorkais ou américains, au Japon, enfin dans les grands pays qui collectionnent les toiles françaises ?
Alors ce qui est intéressant, c'est que Henner, de son vivant, a été très connu et très reconnu par les amateurs étrangers, en particulier en Amérique, plus tard au Japon. Et un certain nombre de musées outre-Atlantique ont des toiles importantes de Henner. Les Américains n'achetaient pas que des impressionnistes. Et au fond, on le sait aujourd'hui très bien, il y a un grand nombre d'artistes qui sont finalement beaucoup mieux représentés outre-Atlantique qu'ici. Mais aujourd'hui, effectivement, le Musée national Jean-Jacques Henner étant en cours de rénovation, on va remettre l'œuvre d'Henner, je pense, tout à fait à l'honneur dans les quelques mois qui viennent.
Un dernier mot pour nous dire quelles sont les grandes expositions que vous aviez faites précédemment, les grands artistes, pour que l'on voit quel genre d'exposition le Musée de la Vieille Romantique peut proposer et quels sont les projets, si l'on peut les dévoiler au jour d'aujourd'hui.
On peut tout à fait les dévoiler. On va parler du futur. Futur, c'est une grande exposition sur les dessins romantiques allemands. Il n'y a pas eu d'exposition sur ce thème depuis 30 ans à Paris. C'est une exposition qui va commencer début mars. À la rentrée de septembre, une grande exposition avec le musée de Montauban sur les dessins d'Ingres. Et en mars 2009, une grande exposition William Blake. Là encore, un artiste qui n'a pas été montré depuis très longtemps.
Et ici, je me souviens avoir vu une exposition sur Gustave Moreau, par exemple.
Oui, il y a une exposition sur Gustave Moreau, une exposition sur Georges Sand, bien entendu, une exposition sur Pierre Loti, une
grande exposition sur
Pierre Loti, voilà, sur André Malraux, qui n'était pas académicien.
Mais enfin.
Mais nous avons eu également les dessins romantiques français, nous avons eu Froment Meurice, qui était le grand orfèvre de l'époque romantique. Enfin, il y a eu un certain nombre de. Et puis, une exposition dont nous sommes particulièrement fiers, qui est un artiste très peu connu de l'époque du romantisme, qui est Théophile Bras, qui est un sculpteur et qui a une œuvre graphique tout à fait passionnante.
Monsieur le conservateur, merci infiniment de nous avoir guidés dans cette visite du Musée de la vie romantique pour la très belle exposition Jean-Jacques Henner.
Merci infiniment et je vous attends donc au 16 rue Chaptal au Musée de la vie romantique, tous les jours sauf le lundi.